Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce 24e numéro. Et oui, 24e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Une émission mensuelle qui décrypte toute l'actualité de l'immobilier. On peut un petit peu moins d'une heure. On se retrouve quasiment tous les troisièmes vendredis du mois avec nos partenaires de Capital. Le numéro de décembre, comme l'an dernier d'ailleurs, on va le faire sur les conflits, les arnaques, les problèmes qu'on trouve dans les métiers de l'immobilier notamment, toujours accompagné de mon fidèle partenaire, Guillaume Chazoulière.
Salut Sylvain, comment bonjour, ça va Guillaume? Ça va parfaitement. Bonjour à tous, et oui, tout à fait Sylvain, nous aurons aujourd'hui pour cette spéciale litige, conflit dans l'immobilier, le plaisir d'accueillir deux invités, Gwenaëlle Lejeune, juriste à l'UFC Que Choisir, bonjour Gwenaëlle.
Bonjour.
Et Émile Agige, désolé.
Ça commence mal.
Et il est là pour boxer aujourd'hui, attention. Directeur général de l'association des responsables de copropriété, plus connu pour les copropriétaires sous le nom de l'ARC. Alors,
bonjour.
Et deux associations hein, qui œuvrent pour la défense des particuliers, Sylvain.
Absolument. Et vous retrouverez d'ailleurs également vos rendez-vous habituels, Guillaume.
Oui.
Ça vous concerne? Questions pratiques, avocat, notaire, expert comptable, agent immobilier, répondre à vos questions, homestager, c'est parti donc pour ce grand rendez-vous de l'immobilier avec nos invités. On se retrouve tout de suite après ça.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Alors Guillaume, nos deux invités, du moins, nous éclairent aujourd'hui sur les principaux litiges qui touchent l'immobilier, qui gâchent la vie des Français, hein, notamment dans le secteur de l'immobilier, de la copropriété, lorsqu'on achète, qu'on loue, qu'on vend. Ils vont surtout nous donner des clés hein, pour repérer ou déjouer les pièges. Avec nous, on a quelqu'un qui est connu dans le métier pour la copropriété, en particulier le directeur général de l'ARC. Émile Agège est avec nous. Bonjour Émile.
Bonjour, ravi de vous revoir.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, une habituée, puisque depuis septembre, avec nos amis de l'UFC Que Choisir, on fait une séquence justement pour les conseils aux consommateurs. C'est Gwenaëlle Lejeune qui est avec nous pour l'UFC Que Choisir. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va aborder, si vous voulez bien, ensemble, les problèmes qui sont liés d'abord à la copropriété, bien évidemment, vous connaissez bien le sujet, Émile. Et avec vous, Gwenaëlle, plus largement aussi, les arnaques, difficultés que peuvent rencontrer dans des litiges qui opposent très souvent, trop souvent peut-être, bailleurs locataires, transactionnaires ou gestionnaires. Voilà, et c'est la première question, comme il est d'usage, que Guillaume va vous poser.
Oui, et on va commencer cette première séquence sur les problèmes généraux. La copropriété, on l'abordera dans un second temps, mon cher. Vous attendrez un petit peu, mais vous pouvez intervenir. Alors, Gwenaëlle, mais justement, vous pouvez intervenir sur les propos de Gwenaëlle. Donc, Gwenaëlle Lejeune, juriste à l'UFC Que Choisir. Cette année encore, vous avez encore mis beaucoup en évidence les litiges récurrents entre bailleurs et locataires. Et parmi eux, les problèmes notamment d'état des lieux, de restitution, de dépôt de garantie qui ne cessent de croître, dites-vous.
Oui, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, parce qu'on a quand même eu une année un petit peu particulière, cette année, nous avons eu un regain de signalement de la part de consommateurs pour des problèmes d'état des lieux d'entrée, d'état des lieux de sortie, de restitution, non-restitution, de caution dans les délais, avec ce type de problématique qui, assez incroyablement, a été beaucoup plus signalé que les années précédentes. Alors, en l'occurrence, les conseils en la matière sont assez faciles, hein, faut pas trop se leurrer. Pour ce qui est de l'état des lieux d'entrée, le locataire doit être particulièrement vigilant, bien évidemment. Il ne doit pas tout payer. Il y a quand même un plafonnement de la participation financière qui peut lui être demandée dans les frais d'établissement de l'état des lieux. Et s'il se rate et qu'il loupe un certain nombre de détails et peut découvrir ensuite des difficultés au sein du logement, il peut avoir des petits rattrapages. C'est-à-dire que si dans les 10 jours suivant l'état des lieux, s'il se rend compte qu'il y a un petit problème, il peut le signaler par lettre recommandée avec accusé de réception rapidement et demander à ce qu'il y ait une modification de l'état des lieux d'entrée. Et sinon aussi, le cas classique, c'est quand même le problème du chauffage. Vous prenez votre logement en été, c'est ballot, vous n'avez pas essayé le chauffage pour voir s'il fonctionnait.
Vous arrivez aujourd'hui. Ils le font, ça, les locataires ? Ils le font ? Ils sont tellement contents de trouver un bail de location pour certains.
Voilà. Mais vous savez,
qu'ils n'osent même pas appeler le propriétaire.
Je dirais que le juriste aura pensé à allumer le chauffage. le juriste, lorsqu'il visite un logement qu'il veut louer, aura peut-être pensé à allumer le chauffage, mais pour le reste, en général, personne n'y pensera, bien évidemment.
Justement, qu'est-ce qu'il va faire le locataire, alors?
Alors, dans ces cas-là, il a quand même...
une clause, revenir après...
C'est pas une petite clause, mais on lui permet de signaler un défaut de fonctionnement, par exemple, du mode de chauffage, dans le mois de l'allumage de la période de chauffe.
D'accord. Après, il faut être vigilant là-dessus. Ça, c'est un des points qui remonte souvent, ça.
Voilà, c'est un gros bon classique.
Et je pense
particulièrement en ce moment, où il y en a qui ont pu avoir cette mauvaise découverte.
Et dégâts des eaux, les problèmes de flotte, tout ça.
On a toujours les problèmes de dégâts des eaux assez
classiques. C'est 80%, c'est incroyable, c'est 80% des litiges.
Ça fait partie des grosses problématiques qui peuvent se poser, malheureusement.
Est-ce que vous sentez que les locataires, vraiment, ils le font après?
C'est-à-dire
qu'ils sont contents de trouver un bail de location. Ouais. C'est compliqué dans les villes. Je parle dans les zones tendues. Hein. Est-ce que quand même ils hésitent pas? Ils vont
c'est plus simple lorsque vous êtes déjà dans les murs.
Ah
oui,
d'accord.
Toute la difficulté, c'est de trouver le logement.
Ils n'ont pas peur de perdre leur bail, en fait. Hein.
Non,
ils savent qu'ils sont protégés.
En l'occurrence, si vous avez un problème d'état des lieux d'entrée, une fois qu'il a été établi, que vous découvrez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes déjà dans les murs, le bail a déjà été conclu, ça fait partie des
alors c'est quoi, pour être précis, état des lieux, c'est le chauffage le problème, c'est quoi d'autre? Faut qu'on prévienne un peu nos...
Tout problème qui peut être découvert et qui n'était pas flagrant lorsque vous avez visité.
D'accord. Alors, chauffage, ensuite
Surtout le chauffage, oui.
Surtout le chauffage.
Et après
des dysfonctionnements, vous pouvez découvrir par rapport à la plomberie, des problèmes comme ça. Alors, sans tomber, bien évidemment, dans les dégâts des eaux.
Ouais.
Mais des difficultés majeures. En général, lorsque vous visitez, vous voyez quand même maximum de la situation. Vous pouvez apprécier le truc.
D'accord.
C'est vraiment la petite découverte qu'on pourrait qualifier de vice caché, en quelque sorte.
D'accord.
Est-ce que l'humidité, par exemple, ça peut être un sujet?
Non. Alors, l'humidité, ça peut être une difficulté. Et là, on peut tomber sur la question de la décence ou l'indécence du logement, éventuellement. Mais... ça dépend des proportions qu'il peut y avoir.
Selon les saisons, on ne se rend pas compte du niveau d'humidité que ça peut avoir.
Ah oui.
J'ai déjà eu le cas.
Oui, oui. Alors la question de l'humidité, comme je vous l'indique, ça peut relever de la question de la décence ou de l'indécence du logement. Ça dépend véritablement des proportions qu'il peut y avoir. Vous pouvez avoir une petite tache, vous pouvez vous demander éventuellement s'il peut y avoir un dégât des eaux ou ce genre de choses.
Il
faut essayer de voir si c'est un problème d'isolation, si c'est un problème de
dégât des eaux. Ce n'est pas des trucs qui vous remontent, ça. Ce qui vous remonte, donc, c'est l'état des lieux, donc vous dites le problème de chauffage. Sur les problèmes de restitution de garantie, sur quoi ça bloque?
Tout simplement, est-ce qu'on peut retenir des sommes ou pas? Lorsque le bailleur retient des sommes, cela doit être lié soit à des dégradations, soit à des réparations locatives qui n'avaient pas été effectuées, ou bien des charges impayées.
Mais il avise le locataire avant.
Oui.
Oui, bien sûr.
En fait, l'idée, c'est que vous avez un délai. Lorsqu'il y a un état des lieux qui est fait, vous avez un délai ensuite durant lequel vous devez restituer la caution. Si l'état des lieux de sortie est conforme, tout va bien, on doit le restituer sous un mois. S'il est non conforme, sous deux mois. Néanmoins, si vous souhaitez retenir des sommes sur le dépôt de garantie, il va falloir le justifier.
Et c'est là que ça pose des problèmes, les litiges? C'est quoi
les
litiges?
Vous
bailleurs qui...
Vous seriez surpris, oui.
Non, mais c'est quoi, alors, justement, surprenez-nous?
À l'instar de l'état des lieux, où il peut y avoir des difficultés d'interprétation sur l'état du logement qu'il peut y avoir, il peut y avoir encore plus, à la sortie, des difficultés sur l'interprétation de l'état du logement. On peut essayer de vous imputer des choses qui n'ont rien à voir avec vous.
D'accord.
Par exemple, les questions de la vétusté peuvent se poser. Vous pouvez vous dire que si vous avez passé 20 ans au sein d'un logement... Le revêtement de sol, s'il est un petit peu abîmé, il a été plus que largement amorti par votre propriétaire.
Et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il conseillait alors, du coup?
Alors, ce qu'il faut savoir, si ça coince...
Si je ne suis pas d'accord avec mon bailleur, ou
si
alors si je suis
pas d'accord avec
mon locataire...
Alors déjà, on se ménage des preuves de tout ce qu'on veut avancer. On a pris toutes les photos qu'on a pu, on a fait des vidéos, ce genre de choses. C'est toujours bien de pouvoir se ménager la preuve de ce que l'on veut avancer. Ensuite, vous faites des courriers recommandés avec accusé de réception, sinon ça ne vous servira strictement à rien.
Bah oui.
Voilà. Et ensuite, vous avez même une petite démarche qui est gratuite et qui est quand même souvent porteuse de fruits, c'est la commission départementale de conciliation. Ça peut avoir son intérêt. Parce que le juge, on va être honnête, le juge, ça représente quand même un coût. Ça peut être long et ça reste quand même assez aléatoire.
Est-ce qu'elle est saisie, cette commission départementale? Souvent.
Oui.
Elle
est souvent saisie.
Et ça marche.
Est-ce que ça marche? Ensuite, c'est du cas par cas. On peut difficilement apprécier le truc.
Vous le savez,
mais est-ce que ça peut fonctionner? Oui, ça fonctionne.
Donc
c'est un bon conseil.
Intéressant.
Voilà. On va avancer dans le timing. Un mot sur l'encadrement des loyers, Guillaume.
Oui, et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu les premières condamnations la semaine dernière.
Récemment,
là, de la mairie de Paris. Des amendes.
Il y a des amendes qui ont été prononcées.
Donc, ça, c'est pas réglé. C'est pas fluide. C'est pas un long fleuve tranquille, l'encadrement des loyers.
Alors, l'encadrement des loyers, quand même, c'est un dispositif qui a vocation à être expérimental pour le moment. C'est assez récent. Pour le moment, pour faire simple, vous avez Paris et Lille, les deux, trois communes autour, qui l'ont appliqué. Donc ce sont des mesures assez récentes. Paris, ça remonte à juillet 2019, mars 2020 pour Lille. Vous pouvez vous dire que niveau encadrement des loyers, ça peut être un petit peu compliqué dans la mesure où ça ne s'appliquera que pour les contrats qui sont signés ultérieurement à la mise en place de ce type de dispositif ou les contrats qui sont renouvelés postérieurement également à cette date.
Quels sont les problèmes qui remontent en fait, c'est ça
Le non-respect du truc.
Mais c'est quoi ?
Parlez bien
du micro. Qu'est-ce qui pose problème ? C'est les bailleurs qui ne connaissent pas la règle encore
qui ne la connaissent pas ou ne veulent pas la connaître.
C'est les problèmes de surloyer. Qu'est-ce qui vous remonte ?
Dites-vous que dans les zones tendues où le dispositif a été mis en place, et d'autres villes ont vocation à le faire. J'ai vu qu'un certain nombre de villes avaient candidaté. Ils avaient jusqu'au 23 novembre dernier pour le faire. Les villes qui ont mis ça en place, il a été constaté, notamment l'été dernier, par un site d'estimation immobilière, mais également par le commissariat général au développement durable, que les annonces étaient en grande partie irrégulières et ne respectaient pas le dispositif qu'ils avaient pu mettre en place.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que locataire ? Si je m'aperçois après coup que je suis rentré dans un logement qui ne respecte pas les clous,
parce que il va falloir bouger.
Je reviens sur la question de Sylvain tout à l'heure. Peu démuni.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Oui et non. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque vous rentrez dans les lieux, il va falloir bouger très, très rapidement. Et faire rapidement. Oui, voilà. Mais dites-vous quand vous êtes rentré, vous avez déjà un pied dedans et c'était là l'essentiel.
Je partage le désarroi de ceux qui nous écoutent parfois, qui se disent mais c'est une galère totale. Moi je l'ai connu, je suis pas. Alors j'ai une chance, je suis un peu juriste de formation quand même, mais tout le monde ne l'est pas et c'est super compliqué quoi.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait dire d'ailleurs sur la copro ? À mon avis, c'est une galère totale. C'est-à-dire que si on n'est pas outillé, à minima, on n'y va pas. Et je vais même aller plus loin. Vous l'avez dit tout à l'heure, si on veut saisir une juridiction, quand on voit ce que ça coûte, quand on voit le délai...
Un délai, un
aléa. Il y en a 9 sur 10 qui abandonnent. Voilà.
Qu'est-ce qu'il fait notre locataire, là ?
Alors, le locataire, lorsqu'il vient de rentrer dans les murs et qu'il se rend compte que bon, l'annonce n'était pas régulière, ce qu'on peut d'ailleurs voir, très souvent sur les sites, maintenant, vous pouvez avoir des petites extensions qui permettent de voir si l'annonce est ou pas régulière. Ça se développe de plus en plus.
C'est-à-dire des tiers de confiance, des qualités.
Non, mais des extensions sur les moteurs de recherche. Vous pouvez appliquer sur les sites de vente par correspondance. Vous pouvez parfois suivre les prix. Vous avez un petit logo qui apparaît et qui vous dit qu'en fait, l'annonce est illégale et ne respecte pas l'encadrement des loyers qui a pu être mis en place. Donc, en tout cas,
on le voit pas très souvent, ça.
Non. Il faut penser à installer les extensions qui peuvent exister.
Il faut installer les extensions. Il y a des extensions qui calculent automatiquement l'écart de loyer.
Oui.
Oui, d'accord.
Ouais. On vous parle le truc et on vous met annonce illégale.
D'accord. Et donc, comment on trouve ces extensions ? On va le donner à nos...
Alors, en cherchant un petit peu sur les moteurs de recherche, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais vous pouvez trouver
un certain nombre
d'extensions. C'est assez intéressant.
Et une fois qu'on est dans les lieux...
Après, vous vous dites bien évidemment que, vu que vous êtes dans une zone tendue, qu'il y a quand même un déséquilibre important entre l'offre et la demande, il faut peut-être quand même signer et essayer de rentrer dans les lieux et contester ensuite. Une fois que vous êtes rentré, il faut savoir que le délai est assez rapide. Vous avez un mois pour demander la baisse du loyer.
D'accord.
Et si ça se loupe, malheureusement, il va falloir passer devant le juge du contentieux de la protection. C'est l'ancien tribunal.
Il faut être vigilant en amont. Juste une dernière question avant d'avancer. Dernière question.
Les problèmes liés aux rénovations, travaux de rénovation.
On en a beaucoup parlé l'année dernière.
C'est la dent creuse de l'année.
Grand classique.
Oui, et d'ailleurs, j'ai encore appris une information ce matin. Il y a eu une décision avec l'ANA, justement, pour les mécanismes de prise en charge. On parlera de tout cela. Alors, le problème de la rénovation énergétique, c'est qu'on propose c'est presque magique, des offres. Je peux comprendre que ça soit tentant, même si la loi limite maintenant le harcèlement téléphonique, le démarchage à domicile, etc., etc. Il y a des personnes qui se font avoir sur la rénovation énergétique. Est-ce que ces litiges continuent à se développer ?
Alors, fort heureusement, comme vous l'avez dit, il y a la loi relative au démarchage téléphonique qui permet quand même de juguler les choses.
Ça marche, hein ?
Alors, pour le coup, oui. Ça marche plutôt bien parce qu'il faut savoir que le démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique est par principe interdit, sauf exception, et en l'occurrence, ça serait sous la forme de services complémentaires à un contrat en cours.
D'accord.
Par exemple, votre fournisseur d'énergie qui pourrait vous contacter par rapport à la question de la rénovation énergétique. Sinon, c'est interdit et pour le coup, c'est plutôt bien suivi. Alors, j'ai eu quelques remontées. La rumeur publique, on va dire ça comme ça, où on m'a indiqué que peut-être il y aurait encore des démarchages téléphoniques. Pour le coup, on n'a pas eu ce type de remontée de la part de nos AL pour le moment. Après, bien entendu, il y a parfois un délai de latence entre le texte et la publication.
Ça, c'est la grande avancée de 2020, mais qu'est-ce qui pose encore problème?
Voilà. Alors,
est-ce que, et puis surtout, est-ce que le nombre de litiges a explosé vu les dispositifs de la MaPrimeRénov', l'élargissement du dispositif de l'aide, etc.? Ou est-ce que vous êtes toujours sur un train de classique?
Un bon train de croisière? Non. Bien évidemment, plus il y a de communication gouvernementale, plus il y a l'aspect effet d'aubaine, plus il y a de difficultés parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques et du coup,
on rappellera
il y a un effet d'emballement.
On rappellera notamment que tout le monde n'est pas éligible aux fameuses offres à 1 euro.
Voilà.
Ça, on l'avait suffisamment dit l'année dernière.
Voilà. Et la difficulté, c'est que là, en l'occurrence, bon, on a mis un petit peu de côté le démarchage téléphonique, mais il reste quand même le démarchage à domicile.
Voilà.
Et là, dites-vous que c'est pas comme en sport, c'est pas parce que vous êtes à domicile que vous avez l'avantage du terrain. Pour le coup, c'est l'inverse. La rénovation énergétique, ça doit se concevoir, que ce soit sur les travaux qui doivent être faits, le choix de l'entreprise, les aides qui sont éligibles ou pas. Et si vous ne faites pas attention à ça et que vous signez ça sur un coin de table, vous exposez à énormément de difficultés. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas le faire.
Merci beaucoup, Gonel Lejeune. On a, je crois, un micro-trottoir qui est prévu.
Surprise. Oui, un petit micro-trottoir pour terminer cette séquence. On va vous le faire écouter. Nous sommes allés sonder les Français, enfin, quelques Parisiens, dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient des prestations des agents immobiliers.
Là, pour le coup, on était à la gare de Clamart.
Gare de Clamart, d'accord.
Alors, gare de Clamart, on s'est dit, au lieu d'interroger tout le temps, on va au métro Bourse, on va dans le 17e, la rue de Lévis, on fait toujours ces micro-trottoirs. Là, on s'est dit, non, on va aller en banlieue, proche couronne.
D'accord.
Voilà. À la sortie de la gare.
On vous le fait écouter, puis vous le faites une petite réaction. Alors, c'est vraiment sur les prestations des agents immobiliers.
On écoute.
Ils participent un peu à la hausse des prix des spéculateurs, voilà. Ça, tout simplement, des spéculateurs.
Vous croyez qu'ils font monter les prix de l'immobilier?
Ah oui, bien sûr. Sur chaque transaction, ils prennent un gros pourcentage. Et c'est eux qui négocient directement avec le client. Moi, je fais la transaction directement avec le propriétaire.
Je pense que c'est pas malheureux, hein. C'est pas malheureux, hein.
10% sur 500 000 euros, monsieur, ça fait combien? On est à 50 000 euros pour l'agent immobilier.
C'est ça.
Il fait la vente d'un appartement. La remise aux normes, c'est le client qui le fait. C'est pas lui. Après, oui, les diagnostics. Mais ça représente 500 euros, ça, monsieur.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable pour terminer. Mais c'est vrai que l'agent immobilier va faire visiter, par exemple, 10 personnes. Il va en vendre qu'à une. Donc il aura passé beaucoup de temps avant de pouvoir vendre.
Peu importe, ça c'est son activité. Maintenant, vous faites deux biens par mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi, pour ma part, c'est énorme.
Bon, c'est très ciblé. Voilà. Trop cher les commissions d'agents.
En fait, c'est intéressant les réactions. On a eu pas mal d'autres réactions. On a quand même modéré un petit peu. Il y en a qui étaient un peu plus énervés, mais... ce qui est surtout intéressant au-delà de c'est une transaction ou gestion, c'est l'image de l'agent, c'est l'image de l'immobilier. On voit que l'image, elle n'est pas au top. Quoi.
Peut-être moins que les huissiers et d'autres professions, mais effectivement.
C'est justifié selon vous, ça?
Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'image qu'il y a de la distorsion entre les honoraires réclamés et le travail effectué. Et ce qui est valable pour les agents immobiliers, c'est encore plus valable pour les syndics. Et donc, en réalité, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un manque de traçabilité, de transparence sur la rémunération réclamée par rapport aux tâches réalisées. Et donc, c'est ça qui crée, en fin de compte, cette rupture de confiance
existante
entre le professionnel et le consommateur.
Les clients, ils se disent, ce que je paye... Le travail qu'on me propose, ça justifie pas, en fait.
Tout à fait. Et au final, les syndics, en premier lieu, profitent parfois de leur monopole, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir réaliser cet acte-là, pour, au final, proposer des tarifs complètement exorbitants, disproportionnés, qui sont en aucun cas le reflet de la mission qu'on lui demande. Et donc, cette frustration-là, on le voit bien dans votre reportage, qui crée, justement, ce conflit latent.
Merci beaucoup. Emile. On va passer d'ailleurs à vous, Émile Agech. Merci beaucoup à vous, Gwenaëlle Lejeune. Hein, je rappelle que vous êtes la C'est que choisir, partenaire depuis cette année, d'ailleurs. Je vous propose que vous restiez avec nous. On va laisser passer une petite page de pub. Et ensuite, ce sera le moment des experts avec Ça vous concerne. Et on reprendra, bien évidemment, le cours de notre magazine. À tout de suite, ne zappez pas.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, d'être aussi fidèles pour ce 24e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Ça vous concerne, première partie, la partie préférée de nos amis, n'est-ce pas Vincent ?
Oui, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Et vous pouvez poser vos questions à nos experts, c'est très simple, sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Vous postez votre question et la réponse dans la sélection, ici peut-être le mois prochain. Notre premier expert, c'est Benoît Morel, il est notaire à Paris et c'est un habitué. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bienvenue. Une première question de Laure du groupe Facebook Le Club des Proprios. Dans le cadre de l'achat d'un appartement en VEFA, le promoteur de Laure a désigné un syndic de copropriété qui sera donc convoqué dès la première AG. Le syndic a-t-il le droit de présenter un seul et unique syndic à la copropriété ? L'or et le reste de l'immeuble peuvent-ils choisir une autre société, Guillaume ?
Le promoteur. Le promoteur a-t-il le droit d'imposer un syndic, en fait, c'est ça.
L'or et le reste de l'immeuble peuvent-ils choisir une autre société ?
Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'effectivement, on est à la naissance de la copropriété puisque dans votre question, l'immeuble est neuf, il n'a jamais été soumis au statut de la copropriété et là, l'achèvement du premier lot va faire naître la copropriété et se pose bien sûr la question de sa gestion. La seule solution pour avoir un syndic provisoire, c'est effectivement que le promoteur en désigne un. Donc il y aura un premier syndic qui sera choisi par le promoteur au moment de la signature du règlement de copropriété et qui donc va s'imposer à la copropriété pendant au maximum une année après l'achèvement, puisqu'après le syndic a l'obligation de convoquer une nouvelle AG où là sera désigné un syndic qui sera plus un syndic provisoire. Donc on peut avoir un syndic professionnel, un syndic bénévole. Et la loi prévoit que désormais, le syndic est obligé de mettre en concurrence. Et mettre en concurrence, c'est au moins avoir deux offres. La difficulté, c'est que il faut que les copropriétaires s'impliquent un peu dans la démarche, puisque sinon, c'est le syndic qui va auto se mettre en concurrence. Et donc, c'est assez sympa pour que les copropriétaires contactent le syndic provisoire, fassent acte de présence s'ils veulent être syndic bénévole ou proposent des syndics qui connaissent par ailleurs pour avoir des contrats et une mise en concurrence.
Mais comment on fait si moi, je viens d'acheter dans cette copropriété, c'est ma première AG, je me suis renseigné sur la loi, je ne veux pas du syndic qui va m'être proposé par mon promoteur, je peux en amont de la première AG déjà.
Alors effectivement, il faut le faire.
Proposer d'autres syndics.
Est-ce que ça arrive ça ?
Ouais. Alors, vous avez toujours deux sujets. En fait, c'est toujours un sujet de défiance la plupart du temps, puisqu'on, si vous avez eu des problèmes de levée de réserve, de malfaçon ou de retard, on va vous dire que le promoteur a choisi un syndic qui va plutôt être arrangeant avec lui, ce qui est objectivement peu le cas, puisque le syndic, au contraire, a envie d'être maintenu et fait plutôt bien son travail et va défendre les intérêts de la copropriété. Par contre, vous avez toujours un fantasme qui peut être là en disant il va pas nous défendre aussi bien parce qu'il n'a pas été choisi par nous, mais par le promoteur au départ. Donc souvent dans ce cas-là, on peut avoir envie de choisir un autre syndic et vous allez recevoir, donc au moment de la naissance de la copropriété, vous allez commencer à recevoir des charges, vous avez ces coordonnées du syndic, les coordonnées du syndic sont aussi dans votre titre de propriété quand vous avez signé votre acquisition sur plan, ainsi que dans le règlement de copropriété. Et donc vous pouvez le contacter et lui demander de mettre à l'ordre du jour la proposition de contrat d'un autre syndic.
Ah d'accord.
En amont.
Donc ça veut dire que concrètement, on peut promouvoir
un syndic
ou une offre
une autre offre en tout cas.
Pour choisir le meilleur, d'accord.
Ouais, c'est ça. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, puisque il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, puisque vous avez besoin d'anticiper au moins un mois avant la première assemblée. Puis vu que vous savez pas vraiment, il n'y a pas de conseil syndical par définition, puisque
rien n'est
en forme encore. Donc il faut de votre propre chef anticiper, contacter le syndic et lui demander ce qu'il est l'obligation de respecter, d'inscrire la candidature d'un autre syndic à l'ordre du jour.
Logique.
Une deuxième question maintenant, Benoît Morel. Martine, toujours sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Martine, elle vend un garage au prix de 22 000 euros. Elle nous demande comment sont calculés les frais de notaire sur ce type de bien, sur ce garage.
Alors ça, c'est une question qui a évolué récemment, puisque on avait une grosse difficulté qui était que les petits prix de vente font l'objet d'un taux de frais de notaire qui est très important proportionnellement. Et donc, en fait, vous êtes loin des 7% qu'on a en tête d'habitude lorsqu'on fait une acquisition immobilière, puisque pour un bien à 22 000 euros, on est presque à 15% de frais, qui sont liés au fait que vous avez surtout ce qu'on appelle des débours, qui sont des pièces extérieures qu'on va acheter pour préparer la vente, qui sont des coûts fixes. Et donc qui vont augmenter, qui sont la base de l'imposition, qui sont plus élevés. Et donc là-dessus, vous avez à peu près la moitié de taxes qui sont des taxes étatiques, à peu près 40% de frais de notaire, et puis à peu près 10% de débours qui vont être payés ailleurs. Et on va être autour, sur une vente à 22 000 euros, autour de 3 500 euros de frais quand même. Donc c'est vrai que c'est proportionnellement très élevé.
Oui, c'est pas neutre.
C'est pas neutre du tout. Merci beaucoup, Benoît Morel, pour ces réponses. Vous êtes notaire à Paris. On se retrouve tout à l'heure avec notre expert agent immobilier, Sylvain Guillaume. Merci, Benoît.
Merci beaucoup.
À tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
Rebonjour à toutes et à tous. Toujours dans votre 24e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Comme c'est l'usage et en cette fin d'année, nous avons le plaisir toujours renouvelé de retrouver David Benbassa. Salut David.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Comment ça va David ?
Très bien, très bien.
Fin d'année chargée.
Fin d'année chargée, comme tout le monde.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous nous réservez ? Je sais que l'année 2020 a été...
particulière.
Pour le coup, singulière. Mais... Et je crois que vous allez nous proposer un petit flashback, une petite rétrospective sur l'année, me semble-t-il.
Voilà, c'est la dernière de la saison, il me semble. Donc, il me paraissait intéressant de faire un petit bilan de l'année. Malgré tout, en essayant d'apporter une note positive, parce que l'année 2020, on a quand même intérêt et envie qu'elle s'arrête et qu'on passe à autre chose. Donc, quand même. Donc,
c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Voilà, c'était l'essentiel. Donc, je vais commencer par ça. 2020, finalement, on a senti effectivement une période de pleine d'incertitudes, notamment pour les professionnels de l'immobilier, avec des stop and go, de la pause, ça repart de manière féerique. Donc, c'était particulier, mais quand même, quand on fait le bilan de l'année et qu'on regarde le volume de transactions auquel on veut arriver, on va arriver. Je pense que on aurait signé ça dès le premier confinement et qu'on n'a pas passé une année si mauvaise que ça en termes de volume de transactions. Si je me mets du côté des audiences, notamment des portails immobiliers et de l'intérêt finalement des porteurs de projets. Alors effectivement, pendant le premier confinement, il y a eu des baisses d'audience importantes, puis c'est reparti comme en 40. Mais ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça a permis notamment pour nombre de portails et bien ici en particulier d'atteindre des chiffres historiques en termes d'audience, de dépasser les 100 millions de visites à un mois.
Historique, c'est-à-dire même avant.
Ah oui.
Même par rapport à avant.
Même pour nous. Nous, on est un acteur assez jeune, mais on a, en fonction de nos objectifs, atteint les 100 millions de visites un mois et demi avant ce qu'on avait prévu. Donc, il y a eu un élan des recherchants immobiliers, des porteurs de projets qui étaient là. Et ça aussi, c'est la bonne nouvelle.
Oui, ils ne sont jamais partis. D'ailleurs, vous allez, le 7 décembre 2020, vous allez fêter vos 5 ans.
Exactement. Bravo. Ouais, c'est bien ça.
C'est incroyable. Alors, on a l'impression que Bien Ici existe depuis des années.
Eh ben non, on va vite. On va vite. Les professionnels vont vite aussi. Sur l'adaptation, l'adaptabilité professionnelle de l'immobilier. Le premier confinement a été effectivement assez dramatique puisque le marché s'est arrêté. Malgré tout, ils ont su s'adapter à ce nouveau marché, à prendre en main les visites virtuelles, à se mettre sur les visioconférences et finalement à passer plus de temps à soigner leur image sur le digital. Et ça, je pense que c'est tout à fait complémentaire à la relation client qu'ils ont en physique. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, et je pense que cette période, finalement, à renforcer le rôle des professionnels de l'immobilier auprès des porteurs de projets, que ce soit sur l'achat, la location ou l'investissement. Ça, c'est des éléments positifs que moi, j'identifie. Alors, est-ce que les recherchants immobiliers ont modifié leurs habitudes ? Oui, très certainement. Et ça, on l'a vu notamment sur le choix des critères. Dans ces périodes difficiles, on sent bien que l'image du logement cocon, où on se sent bien, où on a envie d'y vivre, a été extrêmement important. On a vu les Français qui souhaitaient réinvestir dans leur logement. soit dans des travaux, soit réinvestir ailleurs. Et ça, on l'a vu aussi de manière assez, assez forte. Quel que soit le projet immobilier, par contre, il y a des choses qui ne changent pas. Les critères importants, la localisation, la surface et bien évidemment le budget. Donc cette année, on a pu observer quand même des recherches immobilières un peu plus aventureux sur la zone de recherche. Ils ont élargi leur zone de recherche. On a vu ça notamment dans les grandes villes. Ils ont ajouté des critères. On a souvent parlé des critères d'extérieur, balcon, terrasse, jardin. Ça, c'est un élément extrêmement important que l'on a vu naître. Effectivement, la redéfinition du logement, aller chercher une pièce en plus pour télétravailler, aborder le logement autrement, c'est un élément important. Autre critère, la connectivité. Le télétravail a poussé effectivement des besoins beaucoup plus importants de connectivité à la fibre pour pouvoir travailler à distance. Ça, c'est des critères importants. Et enfin, et on les voit de plus en plus arriver, ces critères d'économie d'énergie. On passe de plus en plus de temps chez soi, donc l'investissement est dans l'énergie et l'économie d'énergie qu'on peut faire extrêmement important. Bref, est-ce qu'on va assister en 2021 à un nouveau recherchant immobilier? J'en sais rien. En tout cas, on sera là pour commenter et le suivre de manière importante. On a fait également un petit focus sur le marché et les prix. On a regardé une analyse intéressante, écoutez bien, les prix affichés donc sur le site des annonces d'appartements avec des critères d'extérieur, balcon, terrasse, jardin. Et on a voulu regarder leur évolution sur l'année et l'impact du confinement. Ce qu'on a pu constater finalement sur l'année, c'est que ces prix affichés ont évolué de 7 à 9% de plus qu'en début d'année. Ça a été beaucoup plus marqué sur les petites surfaces et notamment les T1. Les T1 qui avaient un critère d'extérieur balcon terrasse, et bien finalement ont pris de la valeur au détriment de ceux qui n'en avaient pas. On a fait cette même analyse dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on a vu par contre que l'impact était le même, sauf pour les grandes surfaces. Dans les grandes villes, les appartements qui ont des grandes surfaces et qui ont un extérieur, finalement ont moins d'avantages et ont moins d'avantages par rapport aux maisons qui se trouvent en périphérie. Donc là, les prix n'ont pas forcément augmenté, les prix affichés, et on a vu des choix de recherchants immobiliers qui se portaient sur l'extérieur de ces grandes villes. Bref, vous le savez, la qualité de vie, moi je vous en parle depuis 5 ans maintenant, on recherche pas un bien immobilier seulement pour les 4 murs, mais pour l'environnement qu'il propose avec la proximité des commerces, des parcs, des transports en commun, et on le voit bien que tout ça prend de plus en plus de sens. Donc les recherchants immobiliers, on le voit aussi, sont beaucoup plus aguerris à la recherche sur Internet. Et finalement, ce qu'on constate, c'est l'absence d'informations, que ce soit sur la localisation du bien, que ce soit sur les charges, que ce soit sur les diagnostics, ou un manque d'informations sur les photos, les visites virtuelles, les vidéos, ben finalement, ça devient des éléments pénalisants pour le bien. Donc, attention à ces éléments-là, des recherchants beaucoup plus aguerris, les professionnels aussi doivent en tenir compte et donner de plus en plus d'informations sur le bien. Je vais finir ma chronique en parlant de financement. On voit bien que c'est important. Les conditions d'octroi sont extrêmement difficiles, mais on a quand même toujours des taux aussi bas. Donc ça, j'espère que les conditions d'octroi vont un petit peu s'alléger. On voit bien que le ministre a accentué aussi ses aides et fait perdurer ses aides, notamment sur le prêt à taux zéro ou le dispositif Finel qui perdure. On va espérer que ça va soutenir le marché. Bref, moi je vois demain comme une opportunité. Il faut le prendre comme ça. Vous, Radio Immo, vous, Capital, nous, bien ici, on aime l'immobilier et les Français aussi. Et on voit bien que par le nombre de recherches qu'ils ont, ils sont toujours là, ils sont toujours prêts à se lancer dans des projets de location, d'achat, de revente, et on sera là pour les accompagner.
Il y a quelque chose toujours de lyrique dans... On pourrait dire ainsi parler David Benbassa. Merci en tout cas, extrêmement intéressant. On va vous souhaiter une très très belle fin d'année.
Merci à vous
David
aussi.
Benbassa, je sais que vous avez une très très bonne année 2020, très mouvementée aussi.
Oui,
un très bel anniversaire aussi, hein, pour le 7 décembre 2020, puisque vous fêtez vos 5 ans et on vous retrouve, David Benbassa, l'édito et le Focus Marché, qui n'a pas eu lieu ce mois-ci, mais qui aura lieu, je vous rassure, le mois prochain, avec nos amis de Bien Ici. On vous retrouve David, très belle année.
Merci à vous.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans votre grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Deuxième partie, toujours avec l'ami Vincent. Cette fois-ci, nous avons un agent immobilier et pas n'importe lequel.
Oui, Yann Cahill. Bonjour Yann, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Batignolles Immobilier, agence immobilière dans le 17e arrondissement, c'est chez vous. Et une question maintenant, la première question, elle est de Mohamed sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Il vient d'acheter, il s'apprête à quitter le logement actuel dans lequel il est locataire. Le préavis a été envoyé le 28 novembre. Il doit donc payer payer le loyer jusqu'au 28 décembre. Le propriétaire lui propose de faire l'état des lieux le 21 décembre, date à laquelle il quittera donc le logement. Est-ce qu'il doit payer le loyer jusqu'au 28 décembre pour respecter le préavis d'un mois ou bien jusqu'au 21, jour du départ et signature de l'état des lieux de sortie, Yann Cahill?
Question très classique. En effet, on a l'impression qu'on peut payer moins en partant plus tôt. Malheureusement, pour répondre directement à la question, non, le préavis d'un mois, de date à date. Donc même si on part avant, il n'y a pas de prorata. Il peut y avoir éventuellement un accord avec le propriétaire si, par exemple, nous, je sais que c'est ce qu'on fait au Batignolles, si on arrive à louer dès le 22, bah évidemment qu'on évite de prendre de gagner deux fois le loyer, donc on fait un remboursement au locataire sortant. Mais légalement, c'est le 28, du 28 au 28, donc même s'il part le 21, et d'ailleurs, il pourrait même demander à son propriétaire d'y rester jusqu'au 28.
Et ça peut se faire à l'amiable.
Petite précision. Oui, après, conventionnellement, oui, on peut discuter, mais légalement, c'est pas parce qu'on rend les clés le 21 ou le 15.
Au moins le mois.
Oui,
c'est un mois.
Ouais. Petite précision, parce que ça indiquait un mois, là.
Oui, alors, à Paris.
Voilà.
C'est ça.
C'est un mois à Paris et ailleurs, c'est combien?
Ben, en fonction des zones, il y a des zones tendues, moins tendues. Mmh. Et en tout cas, à Paris, c'était la question que je me posais. Mais à Paris, à partir du moment où le préavis d'un mois, après, il faut voir si c'est un contrat meublé, pas meublé. Mais en tout cas, à Paris, c'est un mois et donc.
Et sinon, c'est trois mois, c'est ça?
Ouais. Mmh.
Trois mois ailleurs c'est et ça. En meublé, c'est
un mois.
D'accord. Mmh.
Deuxième question maintenant de Ludovic du groupe Facebook, le club des proprios. Il s'apprête à mettre en location son logement. Son futur locataire lui propose deux garants. Ludovic se demande s'il peut accepter deux garants et les signifier dans le contrat de bail. Yann.
Alors pareil, une question très classique. La réponse c'est qu'en fait, cette question vient du fait qu'on ne peut pas cumuler un garant et une assurance loyer impayé ou un garantisseur. En revanche, on peut avoir deux garants. Oui, bien sûr. L'imposé, non, mais les souscrire, oui. Oui, bien sûr. Oui. En revanche, deux personnes physiques.
Oui, ça peut pas être une institution et voilà.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, très souvent, et d'ailleurs, les locataires demandent souvent, est-ce qu'il y a une assurance loyer impayé ? Pourquoi ? Parce qu'ils veulent savoir s'il y a garant ou pas garant, puisque, encore une fois, on ne peut pas mettre un garant lorsqu'il y a une assurance loyer impayé, hormis pour les étudiants. Mais donc c'est l'un ou l'autre généralement, et un ou deux ou plus. Hein, on voit des contrats de location, de colocation avec quatre colocataires, avec quatre garants.
Ouais. Quand on prend la garantie Visale là, qui
on peut pas,
elle est toute seule.
Pas de garant.
Pas de garant non plus.
Ah non, on est couvert. En fait, le grand principe c'est de la cohérence. On est couvert par la garantie, donc c'est pas nécessaire et légalement c'est pas possible.
En tout cas, là, pour Ludovic, voilà pour la réponse. Merci beaucoup pour ces conseils. Yann Cahill, votre agence Batignolles Immobilier. Vous allez retrouver sur batignolles-immobilier.com.
Merci Vincent. Merci Yann Cahill. On va se retrouver tout à l'heure pour la dernière partie de Ça vous concerne. Troisième focus avec un avocat pour le coup. Et dans un instant, on va retrouver la deuxième partie de notre entretien avec nos grands témoins, nos deux grands témoins. Émile Agège, le directeur général de l'ARC, et Gwenaël Lejeune, du pôle juridique de l'UFC Que Choisir.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver, comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Trouble in your brain, anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all. Every day is a miracle.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous toujours pour ce grand rendez-vous de l'immobilier, 24e numéro, et oui, 24e numéro. On commence à bien être installé dans le décor, vous êtes très très nombreux à nous suivre, merci. Encore une fois, on va vous donner toutes les clés de décryptage. Deuxième partie avec le grand témoin. Pour cette fois-ci, on va parler de copropriété et je propose d'ailleurs, mon cher Guillaume, qu'on propose à notre ami Émile Agège, directeur général de l'ARC, de répondre aux questions qui sont liées à la copropriété. Bien évidemment, Gwenaëlle Lejeune, vous êtes de l'UFC Que Choisir, vous restez avec nous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu intervenir, comme la tradition, bien évidemment. Première question, Guillaume.
Oui, et on commence par un petit point positif. Depuis cet été, les contrats de syndic ont été réformés, améliorés, mieux encadrés. Quelles sont les avancées concrètes, Émile Agège, là-dessus? Et pourquoi vous appelez quand même malgré tout à la méfiance? J'ai discuté avec vous avant plateau. Voilà.
Alors effectivement, avec le décret du 2 juillet 2020 qui a réformé le décret du 7 mars 1967, on a intégré une évolution au contrat type de syndic qui, je répète, est également réglementé, c'est-à-dire qu'il est encadré. Et le contrat type répond à une règle très claire qui est le contrat tout sauf. C'est-à-dire que le syndic ne peut facturer que les prestations expressément indiquées dans le contrat, et toutes les autres prestations sont réputées incluses dans le forfait de base. C'est très important de partir de ce postulat-là, qui est de dire le syndic ne peut facturer que les prestations indiquées. Malgré ce contrat type, on a tout de même constaté des abus, des dérives, des illégalités, autrement dit des syndics qui essaient de s'émanciper du contrat type. Et donc là, aujourd'hui, c'est très clair, puisque justement l'ordonnance du 30 octobre 2019 a prévu des sanctions jusqu'à 15 000 euros pour un syndic qui ne respecterait pas à la lettre le contrat type. Voilà. Donc, compte tenu des dérives des syndics, le décret du 2 juillet a rajouté encore des garde-fous. Donc plusieurs garde-fous. C'est très intéressant parce que en réalité, il y avait une petite guéguerre. Les syndics qui demandaient un assouplissement du contrat type. Et en parallèle, nous qui demandons plutôt, un meilleur encadrement encore du contrat type compte tenu des dérives. Et effectivement, les pouvoirs publics, non pas pour faire plaisir à l'ARC, mais compte tenu des constats d'abus qui lui ont été remontés, notamment par la répression des fraudes, ils ont effectivement corrigé certains tirs, et c'est très bien pour les copropriétés et les consommateurs. Alors, ces évolutions, quelles sont-elles? Alors, il y en a plusieurs.
De manière succincte, mais claire.
De manière succincte
et claire. Parce qu'on a un quart d'heure, mais pour parler d'autres choses aussi.
On va la faire très courte. Premièrement, le contrat type prévoit des pénalités. Les syndics ont neutralisé les pénalités en mettant un centime. Aujourd'hui, ces pénalités sont fixées par voie réglementaire. Et donc, un syndic qui refuserait de remettre les documents au conseil syndical au-delà d'un mois, c'est 15 euros par jour de retard. Un syndic qui refuserait de remettre la fiche synthétique à un copropriétaire, c'est 15 euros par jour de retard. L'état daté, on le sait, plafonné à 380 euros. Donc, le syndic ne peut plus, facturer plus de 380 euros.
Est-ce qu'on peut rappeler juste à nos auditeurs ce que c'est qu'un état daté?
Alors, l'état daté, c'est les documents ou les informations à remettre au notaire lors d'une vente d'un bien.
Voilà. D'accord.
Merci.
Donc, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on a mieux encadré la désignation et la révocation du syndic en cours de mandat. Donc, au final, ce sont des dispositions de l'ordonnance du 30 octobre qui ont été intégrées dans le contrat pour rendre ces dispositions, au-delà d'être légales, contractuelles. Là aussi, troisième point qui est extrêmement important, c'est sur l'encadrement des tarifications, des prestations complémentaires et supplémentaires. En réalité, beaucoup de syndics s'amusaient à faire un mille-check de modalités de prestations. C'est-à-dire qu'ils prévoyaient un forfait auquel on ajoutait des vacations horaires, auquel on ajoutait un coût par le nombre de lots que compose la copropriété. Donc maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire que le syndic doit choisir entre soit un forfait, soit une vacation horaire. Il peut pas additionner une vacation auquel il ajoute un forfait. Donc ça c'est essentiel.
Et comment je le lis ça correctement en tant que copropriétaire? Je suis souvent néophyte. Comment j'arrive à le différencier?
Vacation, c'est très simple. Si vous voyez une prestation, ouais. Je vous donne un exemple. On va prendre par exemple l'assemblée générale supplémentaire. Oui. Si vous constatez que le syndic prévoit un forfait de 600 euros ce 600 euros auquel il ajoute une vacation horaire, c'est illégal. Aujourd'hui, on doit choisir l'option.
Forfait ou vacation.
Voilà, forfait ou vacation.
D'accord.
Mais, parce que tout simplement, il est bien écrit « soit ». C'est « soit » et ce n'est pas « et où ». Donc ça, c'est aussi un élément.
Et ça, ça prend effet dans tous les contrats de manière rétroactive.
Ça prend effet dans tous les contrats signés depuis le 4 juillet.
Et Ménagège, si on donne le tuyau à un conseil syndical, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir, le forfait ou la vacation?
Alors c'est clair, net et précis que le mieux reste le forfait. D'accord. Parce que pour deux raisons, le forfait, il n'y a pas de mauvaise surprise, d'une part. D'autre part, la vacation, il n'y a que le syndic qui est en mesure de dire s'il est passé, il a passé 2h35 ou 45 minutes. Donc au moins, on évite tout débat, toute ambiguïté. On sait que c'est un forfait. Après, ça se négocie, mais au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Là, aujourd'hui, on a, comme on dit là, le double effet qui se coule. C'est-à-dire, non seulement, on ne sait pas exactement pour mettre en concurrence les contrats, c'est impossible, puisqu'en fait, la modalité, elle n'est pas définie, c'est vacation horaire, d'une part, donc on ne peut pas faire de mise en concurrence. Et deuxièmement, au final, on a la surprise de savoir à quel tarif le syndic a facturé la vacation, et surtout, à partir de quand il a commencé à faire son décompte.
À nous d'être vigilants, donc, sur ce point. On connaît maintenant les règles du jeu. Peut-être un deuxième point.
Alors justement, vous disiez, effectivement, vous avez parlé de ce décret qui est mieux encadré. Vous avez parlé aussi, vous l'avez évoqué, des syndics qui auraient des filiales, vous savez, des filiales des syndics. Et vous dites que quelque part, on constate que les syndics imposent de plus en plus ces filiales au conseil syndical. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est le cas?
Alors, non seulement c'est le cas, ça s'aggrave.
C'est légal.
On va voir dans quelle mesure c'est légal.
Ça s'aggrave, donc.
Ça s'aggrave et ça devient même dangereux.
Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire, alors, juste pour nous, filiale d'un syndicat?
Alors, je vais vous expliquer le dispositif, parce qu'effectivement, c'est essentiel.
Les gens comprennent pas.
C'est quoi le système? C'est quoi la pratique? La pratique, on a un syndic qui est mandataire de la copropriété. Et ce même syndic va créer des filiales dans différents secteurs, assurance, énergie, entretien, dépannage, et va profiter de son mandat, du fait qu'il est en face les copropriétaires, pour essayer de faire passer ses filiales en force au cours de l'Assemblée Générale. Et donc, en réalité, il va utiliser son mandat pour récupérer d'autres marchés et accroître, en fait, contre ses profits. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Après tout, il fait son business. Oui, le seul problème, c'est
qu'il y a... mise en concurrence.
Premièrement, il n'y a pas mise en concurrence, mais surtout, il y a un conflit d'intérêts. Ce syndic-là, qui est normalement le mandataire de la copropriété, qui doit défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires, se retrouve être en même temps le commercial qui devra ensuite vendre et surtout défendre la filiale qu'il a essayé de passer.
Mais depuis que je vous connais, vous me parlez de ça, et c'est une évidence que c'est cette pratique qui est tentante pour les syndics. Mais comment ça se fait que ça s'aggrave? C'est ça que je ne comprends pas. Alors que l'information, on la connaît, les copropriétaires sont censés être vigilants là-dessus. Comment ça se fait que ça s'aggrave?
Alors, je vais vous dire pourquoi ça s'aggrave. Tout simplement parce que la loi n'est pas assez stricte, d'une part, et vaut mieux dire qu'au final, elle prévoit rien, au-delà de l'interdire, premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle de la filouterie des syndics. Mm-hmm. Je vais être très clair.
Filouterie, ça, vous y allez fort, là.
C'est même gentil.
Filouterie, c'est carrément de la malhonnêteté.
Oui.
Alors un exemple, alors, justifier
on va
tout ça.
Déjà comprenons un petit peu le contexte pour que les téléspectateurs comprennent bien le dispositif. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de procès d'intention, c'est pas tout le monde. Chaque fois on fait se poser intention, on essaie d'englober tout le monde. On va être très clair. Il y en a certains, des groupes qui aujourd'hui ont bien compris que les enjeux financiers étaient au-delà de la loi et d'intérêt du syndicat. Bon,
donc la pratique.
Alors déjà, soyons très clairs par rapport au texte de loi. On a deux textes de loi. L'article 18.1A, loi 65. Et on a l'article 39, du décret 67, qui précise que le syndic doit impérativement informer, avant de proposer la filiale, les liens capitalistiques qu'il a avec cette fameuse filiale ou avec cette société, parce que c'est pas forcément une filiale, c'est aussi une société dans laquelle il a des liens capitalistiques et qui veut proposer à sa copropriété. Il est obligé de le faire.
Donc, par exemple, si j'ai 70% d'une boîte de travaux ou de plomberie...
Oui. Si vous voulez la proposer à la copropriété, vous êtes obligé en amont d'informer...
Et c'est ça qu'il fait pas, en fait.
La copropriété.
C'est ça qu'ils omettent de faire.
Non, c'est encore plus violent que ça.
Alors.
Donc déjà, j'espère que pour les téléspectateurs, le contexte légal et réglementaire est bien compris.
Je pense.
En amont, le syndic doit informer des liens capitalistiques qu'il a avec la société, et c'est uniquement après avoir informé les copropriétaires, que donc ils peuvent donner un consentement éclairé, qu'ensuite ils proposent le service et la société. Et ben on a des syndics qui jouent de ruse.
Alors
la première ruse, par
vous
exemple,
faites patienter. Alors, là, hein.
la première ruse, elle est très simple. C'est que dans la même résolution, on propose le service et la société. Par exemple, en matière d'assurance. Donc on dit, vous devez souscrire une assurance, mais on vous impose notre filiale. Et donc les copropriétaires se retrouvent contraints et forcés parce que s'ils n'acceptent pas la filiale, ils n'acceptent pas le service, ils n'ont pas d'assurance. Voilà une première filouterie que l'on dénonce.
Alors que normalement, ils devraient dire, voilà, vous devez vous assurer, mais vous avez le libre choix de choisir.
Normalement, la première chose, c'est effectivement, on présente une filiale qui est un courtier en assurance, qui est telle société.
Mais est-ce qu'on est tenu de présenter plusieurs sociétés pour les mettre en concurrence?
Bien sûr. Ou pas? Alors, deux choses. On est obligé de faire la transparence, d'une part. Donc, de préciser les liens capitalistiques qu'on a avec cette société, avec cette filiale, d'une part. D'autre part, effectivement, de la mettre en concurrence pour permettre un vrai choix serein des copropriétaires.
Un autre exemple, Émile, on n'a plus beaucoup de
alors,
temps.
Alors, un autre exemple encore plus violent.
On a encore 5 bonnes minutes.
D'accord. Encore plus violent, et là, on l'a dénoncé sur notre site internet, dans lequel on indique directement le groupe Citia prend les copropriétaires pour des doubles idiots, puisque le syndic fait carrément à l'inverse. C'est-à-dire que, en premier lieu, il vend le service, par exemple d'assurance. Donc première résolution. Donc cette résolution est actée puisque les copropriétaires ont effectivement besoin d'avoir par exemple un contrat d'assurance. Et en deuxième résolution, après que le principe a été acté, en deuxième résolution, on dit qu'en définitive, cette souscription de service ne sera que proposée que par la filiale du groupe Citia. Et donc, compte tenu du fait qu'on a validé le service, on est contraint, puisqu'il n'y a pas d'autre choix, d'opter pour la filiale du groupe Citia.
Vous appréciez pas beaucoup Citia, on dirait.
Non, j'ai rien contre lui. Je l'aime autant pas que les autres groupes qui sont pas honnêtes.
C'est pas légal, mais ils vous ont répondu là-dessus, j'imagine.
Rien du tout. Rien du tout. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas été à répondre.
C'est une question de légalité.
Parce que c'est ignoble d'utiliser ce procédé-là et d'utiliser ce monopole de mandataire pour imposer alors une filiale.
Émile Ajage, est-ce qu'ils ont été retoqués? Parce que ça, clairement, c'est un constat quasi frauduleux.
Retoqués par qui?
Retoqués par une procédure qui aurait été engagée par un conseil syndical.
Mais non, parce que tout simplement, c'est très compliqué. Parce que, encore une fois, qui représente le syndicat des copropriétaires? C'est le syndic. Donc ça voudrait dire quoi? Il faudrait que Citia s'auto-assigne contre lui pour une pratique qu'elle n'a jamais fait.
Émile Ajage, vous adhérents de l'association, je rappelle que vous êtes complètement autonome, que vous vivez des cotisations de vos adhérents, ce sont des copropriétaires.
Non, ce sont des syndicats de copropriétés.
Est-ce que les syndicats de copropriétés peuvent agir?
Non.
Non, mais ils peuvent pas. C'est-à-dire
ils peuvent pas agir juridiquement.
Donc en fait, il y a une filouterie, comme vous dites, et ils peuvent rien faire contre.
C'est
terrible.
C'est terrible.
On peut rien faire.
C'est pour ça.
Gwenaël Lejeune, on peut rien faire.
C'est pour ça que nous, on essaie de mener des actions.
Vous avez eu connaissance de ça?
Non, pour le coup, non. Mais peut-être demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour pouvoir saisir un juge. Après, il y a toujours l'aléa judiciaire.
Émile, alors c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos conseils syndicaux?
Oui, parce que là-dessus,
à nos conseils syndicaux,
voilà.
alors, désespérés.
Alors, parce que là, vous accusez, mais après,
faut agir.
Premièrement,
on a saisi la répression des fraudes.
Qu'est-ce qu'on peut...
Premièrement, on a saisi la répression des fraudes pour qu'elle se saisisse du dossier. Et je peux vous dire qu'elle va se saisir du dossier. Et ça, c'est très important.
La DGCCRF, ils agissent plutôt bien.
Premièrement, ils agissent bien. Et en plus, ils sont pas forcément bien aimés de la profession, on va dire, immobilière. Parce que tout simplement, la profession immobilière se met toujours en victime. Alors que la répression, effectivement, essaye de redresser des situations complètement tordues et bancales. Bon, ça c'est un. De deux, comment dire, j'invite sur ce plateau tout membre du conseil syndical qui voudrait agir judiciairement de nous contacter pour que nous, on les aide dans un recours. Parce qu'il faut savoir une chose, il faut savoir que justement cette fameuse ordonnance du 30 octobre 2019 permet au président du conseil syndical d'agir contre le syndic. Donc si effectivement on a une copropriété qui se trouve abusée par un syndic, et là je parle plus de Citia, je parle de manière générale, se trouve abusé par un syndic, par des pratiques qui sont douteuses, abusives, illégales, nous, on est relais pour monter au créneau et aller saisir les instances, notamment judiciaires, pour faire reconnaître le droit de la copropriété.
C'est clairement entendu. Merci. Une dernière question. Je crois qu'on a une question sur les... Alors là, effectivement, compte tenu de la situation sanitaire, les assemblées générales, elles ont été faites en visio, quoi.
Oui, et la plupart des copropriétaires qui ont dû tenir leurs AG à distance. Moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on en retiendra de cette expérience, que ce soit des visios ou le vote par correspondance?
Ouais, ça marche.
Ça marche bien.
La visio,
ça pose des problèmes. Alors, vraiment de manière claire, succincte, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Mais quel est le premier bilan, le premier sentiment?
Deux mots. Ordonnance du 18 novembre 2020, qui a effectivement permis à un syndic d'interdire les assemblées générales de manière physique. Cette même ordonnance a précisé que, en priorité, on devait tenir les assemblées générales en visioconférence.
Oui, juste rappeler que interdit parce que compte tenu de la situation.
Compte tenu de l'ordonnance.
Et l'ordonnance précise, vous ne pouvez pas réunir les personnes, faites-le en visio.
Vous pouvez interdire, pas vous devez interdire.
Oui, d'accord.
Vous pouvez interdire et jusqu'au 1er avril.
Est-ce que les mandats ont été prorogés dans le temps?
Non, 31, ça reste au 31 janvier 2021. D'accord. Il y a juste une date, mais
le retour d'expérience, parce qu'ils l'ont tous vécu, retour d'expérience.
Alors, très clair, aujourd'hui, alors que ça a été vendu la visio comme étant la panacée, en réalité, on s'est aperçu que les syndics, la plupart ont jeté l'éponge, parce que une visioconférence à 10, c'est encore sympathique, une visioconférence à 30, 40, 500, c'est plus possible. Bon, donc, au final, ce qu'on avait vendu comme étant une avancée, on s'est aperçu que, pratiquement parlant, c'était pas optimal.
Et on peut pas faire autrement.
Et en plus, il faut savoir que pour certains syndics, le vote par correspondance s'est avéré être une aubaine en réalité. Parce que c'est quoi le vote par correspondance? Le vote par correspondance, c'est que il y a pas de débat, il y a pas de critique, et en définitive, on dit au copropriétaire, c'est blanc ou noir. On vous donne une résolution, votez blanc ou noir. On a épinglé un syndic qui a demandé 53% d'augmentation de ses honoraires de base. Il a profité du vote par correspondance en disant, voilà, moi, puisque c'est blanc ou noir...
Des noms.
Blanc, eh ben, vous avez plus de syndic.
Donc,
noir, vous
avez plus. Grosso modo, ce que vous dites, c'était sympathique. On a fait avec les moyens du bord, crise sanitaire. On va surtout pas pérenniser ce genre de pratique.
Alors, le constat.
Le bilan.
Le bilan, c'est ça qui est intéressant.
En 30 secondes, parce qu'on a
le clé par là. 30 secondes, 30%. 30 secondes, 30%. Par définition.
30 secondes, 30%, ouais.
Par définition, toutes les statistiques que l'on a et qui nous sont remontées, il y a eu le taux de participation par vote, par correspondance, c'est 30% des copropriétaires. En réalité, et on a fait un article.
C'est pas
dessus,
énorme, quoi.
C'est pas énorme. Aujourd'hui, les copropriétaires ont boudé.
Et si j'avais dit 20 secondes.
Ça
aurait fait 20%.
Non, mais je suis sûr que 60% c'est 20%. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui les études qui nous ont remontées par plusieurs structures, et pas notamment par Monsieur Frémont aussi,
Gilles Frémont.
Voilà. Qui a aussi indiqué ça.
Association nationale des actionnaires de copropriété. Voilà,
c'est 30% de participation. Donc, par vote, par correspondance. Donc, ça implique quoi? Ça implique que ça n'a pas séduit et ça implique que les copropriétaires ont boudé le dispositif. Parce que tout simplement, on n'a pas le droit de voler la participation démocratique des copropriétaires, qui est une assemblée générale des copropriétaires.
Question, juste pour compléter ça, parce que c'est important, il y en a qui nous écoutent. Quand il n'y a que 30% de personnes qui vont aux assemblées de copro, la copro n'est pas valable.
Si, il y a certaines décisions qui peuvent effectivement se voter, puisqu'il y a une majorité des présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Mais par contre, lorsque la résolution nécessite la majorité des voix du syndicat, donc 50% plus une voix, là, c'est bloqué.
Donc ça veut dire qu'il y a des systèmes de blocage. Merci encore une fois. Je rappelle que, Émile Agège, on peut vous retrouver sur votre site internet, arc-copro.fr.
Tout à fait.
Important, merci, extrêmement intéressant. Et bien évidemment, Gwenaël Lejeune, on peut aller sur le site de l'UFC, www.quechoisir.org, si on veut aussi en savoir plus. Émile Agège, directeur général de l'ARC, merci d'être venu.
Merci
toujours
à vous.
Merci. Toujours aussi punchy. Merci encore, Gwenaël Lejeune, pour nos amis de l'UFC Que Choisir. Et je vous dis à très très vite. Vous restez bien sûr avec nous, les amis. On continue tout de suite après ça.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Toujours dans ce 24e numéro, ça vous concerne. Troisième partie avec L'ami Vincent.
Oui, avec notre dernier expert, et c'est Manuel Raison, avocat à Paris. Bonjour Manuel.
Bonjour Vincent.
Bienvenue. Une première question de Dominique. Suite à des malfaçons constatées sur un ravalement, il y a des cloques sur les murs, la peinture est écaillée, c'est ce que nous dit Dominique. Son syndic a sommé l'entreprise ayant réalisé les travaux d'engager la garantie décennale de son assurance. La déclaration a bien été faite, mais l'assurance ne répond pas. Qu'est-ce que peut faire la copropriété de Dominique ?
Alors déjà, il faut qualifier les travaux qui ont été faits, à savoir le ravalement techniquement. Est-ce qu'il s'agissait d'un coup de peinture, simplement d'une chose esthétique, ou est-ce qu'on a par exemple une étanchéité qui a été refaite en même temps, ou une protection thermique également, éventuellement. Dans cette hypothèse-là, on rentre sous le qualificatif juridique d'ouvrage, donc lorsqu'on ne fait pas que des modifications esthétiques. Alors, le syndic a fait la déclaration, là, dans le cadre de la décennale. On a trois systèmes juridiques qui peuvent se superposer. On a ce qu'on appelle la parfait achèvement, on a la décennale et on a la dommage ouvrage. Alors, on va les prendre un par un. La parfait achèvement, c'est une fois que la réception a été effectuée, on doit effectivement sommer l'entreprise de remettre les malfaçons afin qu'elle y remédie. Donc là, c'est effectivement ce qui doit être effectué et c'est dans l'année de la réception. Ensuite, on a effectivement la décennale, qui est une garantie décennale contractuelle, où là, le syndic a fait la déclaration et il l'a bien fait auprès de l'entreprise en le sommant de, effectivement, faire sa déclaration auprès de son assurance décennale. Il peut par ailleurs, il peut également doubler en envoyant également un recommandé.
C'est l'entreprise
qui a pris sa décennale.
C'est l'entreprise, pas le syndic. Hein, c'est l'entreprise qui a fait les travaux qui a fait une déclaration, là.
Tout à fait. C'est-à-dire que là, le syndic déclare effectivement à l'entreprise les malfaçons, lui somme d'y remédier et de faire une déclaration.
Donc c'est juste.
C'est ce qu'il a fait. Et tout ça. Alors on peut, par sécurité, dans l'hypothèse où on a, comme ça a l'air d'être le cas, pas de réponse de l'entreprise, on peut aussi faire un recommandé à l'assurance décennale dans l'hypothèse où l'entreprise ne l'aurait pas fait puisqu'elle ne nous a pas confirmé.
C'est justement l'objet de la question.
C'est la question.
Elle répond pas. Donc ils ont bien fait les choses, a priori.
Alors ils ont bien fait les choses. Maintenant, il ne faut pas en rester là. Donc on a la possibilité, dans l'hypothèse où ça ne bouge pas, on a l'obligation malheureusement de faire une assignation en référé. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où on ne peut pas constater, on n'a pas d'interlocuteur, on va donc assigner en référé l'entreprise et son assureur afin qu'un expert judiciaire soit nommé, constate les dégâts, voit ce qu'il faut faire pour effectivement y remédier et prenne en compte les responsabilités. Alors ça c'est la voie de la décennale. Je vous parlais tout à l'heure de la qualification d'ouvrage. Dans l'hypothèse où on n'a pas simplement un ravalement esthétique, on peut éventuellement voir si le syndic a pris ce qu'on appelle une dommage ouvrage, c'est-à-dire souscrit une dommage ouvrage. Là, c'est à la copropriété représentée par son syndic, lorsqu'il effectivement est mandaté et fait faire des travaux, de prendre, lorsqu'il y a un ouvrage, donc dans l'hypothèse d'un ravalement, encore une fois, pas simplement esthétique, de prendre une garantie dommage ouvrage. Et là, c'est encore une fois après la délai de parfait achèvement, c'est-à-dire au bout d'un an après la réception, on fait une déclaration à l'assureur dommage ouvrage, mais cette fois-ci, c'est le syndic pour la copropriété qui le fait directement, puisque c'est la copropriété qui a souscrit cette dommage ouvrage. Et là, l'assureur dommage ouvrage a 60 jours pour faire part, effectivement, de son acceptation ou non de la qualification d'ouvrage nécessaire pour faire jouer la dommage ouvrage.
Merci pour ces conseils précis et les réponses donc à Dominique. Nouvelle question de Afida, maintenant du groupe Facebook Le Club des Proprios. Elle a acheté un logement avec un locataire dedans. Question simple, lui est-il possible de mettre fin au bail avant son terme ?
Alors là, évidemment, c'est encadré. On n'est pas dans la liberté. Pourquoi ? C'était parce que c'était pour éviter les investissements qui donnent lieu systématiquement à un congé du locataire et donner donc des droits au locataire dans le cadre de cette opération. Alors juste un rappel, quel type de congé on peut donner ? On peut donner soit un congé par le propriétaire pour sa décision de reprendre le logement, soit de vendre le logement, soit effectivement pour un motif d'illégitime et sérieux qui peut être soit dégradation, soit absence de paiement du loyer. C'est les trois types succinctement de congés. Maintenant, pour le premier congé, pour vendre, le régime n'est pas le même que effectivement le congé pour reprise. On a effectivement tenté de privilégier le propriétaire qui achète pour se reloger lui-même plutôt que de faire une opération simplement en évinçant le locataire pour revendre. Alors là, les délais sont un petit peu compliqués. Je vais essayer de les simplifier. Lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de 3 ans après la date d'acquisition, là, le congé pour vente peut être donné. Donc si je simplifie, je veux dire que j'achète un appartement, la fin du bail est dans un an, donc le bail qui a été signé par l'ancien propriétaire, la fin du bail est dans un an, je ne peux pas donner mon congé qui doit être fait, je le rappelle, toujours 6 mois avant la date d'échéance. Je ne peux pas le donner puisque ça voudrait dire que je donne congé à mon locataire de partir 1 an après l'achat. On doit avoir minimum 3 ans pour l'échéance du bail. Ce qui veut dire que dans l'hypothèse où j'achète, je ne suis pas dans ces 3 ans, je vais devoir attendre la prochaine période, effectivement, pour pouvoir donner congé pour vendre. Ça, c'est le congé pour vendre. Deuxième congé, qui est le congé pour reprise. Alors, juste un petit rappel sur qui peut reprendre. Pas n'importe qui. C'est soit, effectivement, bon, l'acheteur, son conjoint, pour, encore une fois, y établir sa résidence principal, donc son conjoint, un concubin au moins d'un an à la date du congé, qui est concubin depuis un an à la date du congé, son partenaire de Pax, un ascendant ou un descendant de son époux ou du propriétaire. Donc ça, ce sont les personnes pour lesquelles je peux donner un congé pour reprise. Et là, la règle est plus souple, puisqu'elle est de 2 ans, c'est-à-dire que le terme du contrat en cours intervient moins de 2 ans après l'acquisition, ce qui veut dire que j'achète effectivement un bien, je veux habiter dedans moi ou mon conjoint, je dois avoir un minimum de 2 ans avant de pouvoir effectivement donner un congé pour reprise.
Merci beaucoup, Manuel Raison. On vous retrouve avec votre cabinet Raison Avocat à Paris. Merci, à très bientôt.
Merci à vous.
Et vous, derrière l'écran, derrière la radio, vous allez sur Facebook, vous cherchez le Club des Proprios, vous posez votre question et on y répond ici avec nos experts le mois prochain, en 2021. Voilà.
Merci Vincent, on vous retrouve le mois prochain. On va vous souhaiter une belle fin d'année. Merci. Une belle fin d'année 2020. On va souhaiter qu'elle se termine vite, hein, n'est-ce pas Manuel Raison? Et qu'on passe enfin aux choses... sérieuse, qu'on puisse ressortir, se congratuler, parce que franchement, on n'était pas à la noce. Voilà. On vous souhaite une très très belle année à vous aussi. On va se quitter bientôt. C'est bientôt la fin du 24e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. À tout de suite.
Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà les amis, c'est la fin de ce 24e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, 24e numéro, qui d'ailleurs clôture l'année 2020, une année où on n'est pas mécontent qu'elle s'éloigne de plus en plus. On va vous souhaiter que l'année 2021 soit nettement meilleure. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a passé quand même une année pour le moins singulière, n'est-ce pas Guillaume?
Oui, et nous nous retrouverons donc en
janvier prochain.
Janvier, chers auditeurs, on vous attend
le 15 janvier à 18h05.
Ben voilà, maître des horloges, et avec une émission où on fera le point sur les nouvelles aides, alors les APL, les MaPrimeRénov, le prêt à taux zéro, toutes ces aides vont être réformées. Donc on fera le point sur vos droits, que vous soyez locataire, acheteur ou propriétaires qui veulent engager des travaux.
Absolument. On vous donnera toutes les clés de compréhension chaque année, hein, vous le savez. Début d'année civile, nouvel exercice fiscal. Beaucoup de choses vont bouger. On sera au taquet avec Guillaume pour vous répondre. Rendez-vous donc le 15 janvier à 18h05. Merci aux équipes de Radio Immo. Merci également aux équipes de Capital. Il me reste à vous souhaiter, mon cher Guillaume, de belles fêtes de fin d'année, une belle année à venir, en tout cas pour vous tous. Surtout, soyez vigilants, le virus est encore là. Et c'est certain qu'avec la période de vaccination qui nous attend, on va vaincre cette saloperie et enfin pouvoir ressortir au grand jour. Bonnes vacances à tous, très bonnes fêtes et à très vite.
Radio Immo et Capital présentent le Grand Rendez-vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimmo.fr et capital.fr.